Débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. En pleine visite d'État en Chine, Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui à Shanghai le Centre Pompidou Westbound Museum Project, déclinaison chinoise du célèbre musée d'art moderne parisien. Il y a quelques mois, c'était le Louvre Abu Dhabi qui était inauguré en grande pompe aux Émirats Arabes Unis. La France prête ou envisage de prêter à certains pays des œuvres majeures qu'elle possède et qui pourraient les intéresser, comme par exemple la tapisserie de Bayeux, qu'il est question d'envoyer en Grande-Bretagne. Tout cela complète et permet aussi de faciliter les relations commerciales et politiques. La culture est-elle le bras armé de la diplomatie? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Jean-Michel Tobelem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions de gestion culturelle, directeur de l'Institut d'études et de recherche Options Culture et auteur du livre « L'arme de la culture, les stratégies de la diplomatie culturelle non gouvernementale ». C'est aux éditions de l'Harmattan. Et François Chaubet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Nanterre Paris Ouest, chercheur rattaché au Centre d'histoire de Sciences Po et co-auteur du livre « Histoire des relations culturelles dans le monde contemporain ». C'est aux éditions Armand Collin. La culture, les œuvres d'art, les musées, est-ce que c'est une part très importante, on le sait, du patrimoine et de l'image de la France dans le monde, mais est-ce que on a peut-être eu tendance par le passé à, non pas la négliger, mais à ne pas la mettre en avant, François Chaubet ?
Non, je dirais plutôt le contraire. Je dirais que c'est une très très vieille tradition française, au moins depuis Louis XIV, que d'utiliser la culture comme un outil de rayonnement culturel. Je rappelle que au XVIIIe siècle, par exemple, le palais versaillais a été copié par une infinité de cours allemandes ou en Espagne. Donc, l'originalité française, c'est justement de s'appuyer depuis fort longtemps sur l'outil culturel et surtout, je dirais, sans remonter à Louis XIV, surtout à partir de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, où souvent même la culture a été considérée comme un outil qui compense un peu l'affaiblissement politique et militaire français à certains moments.
Jean-Michel Tobelem, est-ce qu'on devrait en faire plus sur la mise en avant de la tradition culturelle française ?
Je crois que, bien sûr, il faudrait en faire plus, mais nous sommes reconnus à l'échelle internationale parmi les nations, celles qui ont déjà l'image culturelle la plus développée, sans doute avec l'Italie, et celle qui dispose d'un vaste réseau dans le monde. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est frappant de voir qu'encore aujourd'hui, de nombreux pays rattachent la France à cette image de la culture. Je crois qu'il va aussi au-delà de la culture. Hein. Ça porte vraiment sur les valeurs, sur les idées de la France. La projection de la France à l'étranger, je crois qu'elle tient compte de tout ça. Elle tient compte des philosophes des Lumières, elle tient compte de Victor Hugo, elle tient compte d'Alexandre Dumas. Elle tient compte de toutes les œuvres de l'esprit qui ont été créées et qui suscitent une sorte de presque une ferveur, si on veut, à l'égard de la culture française.
On parle aujourd'hui beaucoup, et c'est un anglicisme qu'on va traduire, de soft power, de pouvoir doux, par opposition à l'usage de la force. C'est un levier essentiel dans les relations internationales aujourd'hui, et par le passé, François Chaubet ?
Oui. Alors, je dirais les choses de deux manières. À la fois, je dirais, le soft power, alors c'est un terme anglo-saxon qui a été forgé par un politologue américain qui s'appelle Joseph Nye, mais ce terme, en fait, caractérisait, on pourrait parler de soft power, comme je l'ai dit, pour Louis XIV et pour, en général, ce qu'on appelait en France la diplomatie culturelle. Donc le terme soft power est en grande partie, je dirais, un habillage anglo-saxon d'une action culturelle que les Français opéraient déjà depuis fort longtemps. Alors, ce qui est un peu quand même neuf dans l'idée du soft power, c'est l'idée qui est que l'influence culturelle, donc justement, doit se mesurer, doit pouvoir être mesurable. On parle d'ailleurs de diplomatie d'influence. Et c'est ça qui est peut-être nouveau depuis une trentaine d'années dans ce projet donc d'utiliser la culture pour accroître donc son influence politique et culturelle. C'est qu'aujourd'hui, on utilise des leviers culturels qui peuvent rapporter, par exemple, de l'argent, enfin, où culture et économie ne sont plus dissociées. Donc, par exemple, on le sait, en matière de politique d'exportation de projets muséaux, il y a eu le Louvre à Abu Dhabi il y a deux ou trois ans, 2017. Là, il y a donc une filiale de Beaubourg qui est créée à Shanghai. C'est des projets qui, à la fois, donc, permettent de montrer une partie du patrimoine artistique français, mais aussi c'est des projets qui rapportent de l'argent à Beaubourg et au Louvre. Donc c'est ça aujourd'hui qui est un peu nouveau dans cette idée que l'influence doit pouvoir se mesurer, qu'il ne s'agit pas de parler du rayonnement de la France in abstracto, il s'agit désormais de pouvoir, je dirais, en tirer aussi des bénéfices à court et moyen terme.
Jean-Michel Tobelem, est-ce que ça fait de la culture une production parmi d'autres ? Alors, on vend des avions de ligne, on vend des produits agroalimentaires, des armes éventuellement, maintenant on vend des musées, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose en plus
Je crois qu'il faut opérer une distinction dans les productions de culture. Il y a d'un côté les industries culturelles qui ont parfaitement... pour vocation d'être vendu sur des marchés, qu'il s'agisse de nos films, de la musique, des livres, et il n'y a rien là de nouveau sous le soleil. Et effectivement, si on peut accentuer notre présence, ça sera trop mieux, parce que ça évitera effectivement un face-à-face dans certains cas avec, par exemple, l'industrie hollywoodienne. Donc on a besoin de cette présence de la France. S'agissant des musées, je crois qu'il faut être très prudent. Nous parlons d'institutions sans but lucratif. C'est encore le cas aujourd'hui. Pour le Conseil international des musées, les musées sont sans but lucratif. Ils peuvent être privés, comme aux États-Unis d'Amérique. Il n'en demeure pas moins qu'ils obéissent au principe de non-commercialité. Alors, moi, j'ai envie de dire que qu'il y ait une dimension économique, pourquoi pas, mais est-ce que nous sommes assurés qu'il n'y aura pas une contradiction, finalement, dans la durée, avec les principes précisément diplomatiques qui visent à assurer la protection de nos intérêts dans le long terme? Et chacun comprend que, quand bien même on mettrait l'accent, comme on l'a fait depuis des siècles, sur la culture, c'est évidemment pour assurer le rayonnement de notre pays, la diffusion de ses valeurs, la protection des intérêts de ses citoyens et la prospérité de notre pays. Et puis la deuxième réserve que je formulerai à l'égard des principes de la diplomatie au sens général, c'est que nous sommes en quelque sorte dépendants des puissances qui veulent bien acheter notre expertise. Or, qui nous garantit que nous sommes dans la situation optimale où nous sommes présents là où se joue l'avenir de notre pays dans le long terme? Alors certes, vous allez me dire, pour la Chine, il n'y a pas tellement de débat à ce sujet. Mais peut-être, il faudrait-il assurer notre présence dans d'autres, sur d'autres continents, que ce soit en Amérique latine ou surtout en Afrique, où se joue une partie, assurément, l'avenir du monde.
François Chauvet, est-il déjà, c'est une question que je pose à l'historien que vous êtes, est-il déjà arrivé dans l'histoire que le seul canal de communication entre deux pays soit culturel, que la culture remplace complètement la diplomatie ?
Oui, dans certains cas, la culture est le seul mécanisme pour établir des relations internationales avec d'autres pays. Bon, par exemple, paraître étrange comme référence, mais je pense à ça, l'Espagne de Franco, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un pays politiquement, économiquement complètement isolé du reste du monde. Et pourtant, le premier canal que peut-être que le régime franquiste a utilisé a été de créer des instituts culturels donc en Europe, notamment un institut culturel espagnol donc à Londres. Et ça a été un peu le premier réamorçage de la réintroduction, disons, de l'Espagne sur la scène internationale. Donc la culture, c'est vrai, alors ça c'est un cas un peu extrême, mais on le sait aussi, dans la période de guerre froide, on a parlé de diplomatie du ping-pong avec le sport, bon, qui appartient au domaine de la culture au sens large. Donc la culture peut être un terrain, effectivement, de rencontres dans des situations politiques qui sont apparemment très, très bouchées, très, très, très contraintes.
Jean-Michel Tobelem, j'ai envie de rebondir là-dessus en me demandant, est-ce que c'est finalement le rôle des milieux culturels de s'occuper des relations entre pays ?
Assurément. De toute façon, c'est constitutif, je dirais, des valeurs de la
c'est
culture.
C'est consubstantiel, oui.
Oui, oui, parce que quand vous êtes artiste, vous allez dans le monde entier. Quand vous avez des œuvres, quand vous créez des œuvres de l'esprit, c'est pour parler au monde entier. Donc, bien évidemment, le rôle de la culture, c'est d'assurer ces relations, c'est d'assurer des relations d'échange, de coopération. Alors, le débat que nous pouvons avoir, c'est effectivement jusqu'à quel point ça doit être désintéressé. Ma conviction, c'est que le désintéressement est payant dans le long terme. C'est-à-dire que le soft power, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est de gagner les cœurs et les esprits, hein, pour reprendre une expression anglo-saxonne. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon, celle que je présente, c'est-à-dire allons vers les autres, pratiquons des relations qui sont fondées sur l'échange, la coopération, ou est-ce que nous donnons une connotation finalement assez commerciale à ces actions culturelles, auquel cas nous ne sommes pas totalement assurés du rayonnement que pourraient produire nos artistes, nos productions d'esprit, nos productions culturelles d'une manière générale.
Oui, François Chaubet.
Oui, sur ce plan. Alors j'étais un peu en désaccord tout à l'heure avec, disons, la stratégie culturelle d'exportation de la culture française, notamment à Abu Dhabi. Et en Chine, parce que Abu Dhabi, c'est quand même à 2 heures d'avion de New Delhi. Donc, Abu Dhabi et toute cette région des pétromonarchies, c'est le lieu quand même de destination de la classe moyenne indienne. Et d'une partie de la classe moyenne chinoise qui, à défaut de venir en Europe, viendra peut-être à Abu Dhabi pour, entre autres, se délasser, mais aussi visiter le musée du Louvre à Abu Dhabi. Et puis la Chine, c'est pareil, 1,3 milliard. C'est difficile de se désintéresser d'un tel, je vais employer le terme marché, mais aussi d'un tel pays. L'autre élément, en revanche, sur lequel je suis parfaitement d'accord avec mon collègue, c'est que, effectivement, je pense que l'action culturelle, il me semble qu'elle est quand même payante sur le long terme. Il faut envisager, donc, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'action culturelle relativement constante pour espérer avoir une image positive. Et c'est ça que quand même la France a obtenu, disons, depuis 1880-90. Sur plus de 100 ans, elle a réussi par la constance de ses efforts culturels à travers des instituts, des alliances françaises, des lycées français, parfois des expositions. Elle a réussi à construire une image durable. Alors, effectivement, le Louvre à Abu Dhabi ou Shanghai centre Georges Pompidou, c'est une action un peu plus centrée, disons, sur ce que j'appellerais plutôt du court moyen terme, donc peut-être une action sur 10, 15 ans, 20 ans, mais enfin c'est déjà pas mal. C'est une action effectivement qui un peu plus fragile parce qu'elle est peut-être un peu moins durable, un peu moins ancrée dans le temps, mais bon, il faut, disons, savoir conjuguer ces deux temporalités. Il faut savoir être vraiment sur le très long terme et sur le court et le moyen terme.
Oui, Jean-Michel Tobelem, vous parliez de désintéressement. Quand même, la France obtient des choses en retour de ses musées, de l'argent. Le Louvre à Abu Dhabi, il y a eu 1 milliard d'euros qui ont été investis au total. On vend peut-être un savoir-faire français. Est-ce que c'est des réseaux, de l'influence, des touristes qui vont avoir l'idée de venir en France? C'est quoi l'idée?
Sans doute, qui résisterait à un chèque d'1 milliard d'euros? Après, il faut le rapporter sur une durée de 30 ans. Mais sauf erreur de ma part, nous n'avons pas obtenu les contrats de construction du musée lui-même, quand même construit par, enfin, dessiné par Jean Nouvel.
L'architecte était français, quand même.
Voilà, l'architecte était français, mais le contrat, je pense, de l'ordre de 500 millions d'euros au minimum pour la construction du musée nous a échappé. D'autres contrats ne sont pas nécessairement venus de ce. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, évidemment que nous devons être présents dans ces zones en fort développement, qu'il s'agisse du Moyen-Orient ou de la Chine. Il n'y a pas de débat sur ce point. La question est de savoir quelle est la meilleure façon de procéder. Et ma petite crainte, si vous le permettez, c'est cette crainte d'une forme d'instrumentalisation de la culture à des fins qui lui sont en partie extérieures. Donc, pour nous réconcilier, je dirais qu'il faut trouver un point d'équilibre. Qu'est-ce qui est cohérent, compatible avec les valeurs des institutions culturelles, et qu'est-ce qui suscite un certain nombre de difficultés et qui pourrait nous mettre en porte-à-faux, par exemple sur la location d'œuvres, hein, dont ne parlent pas aujourd'hui les conservateurs, je n'ai pas entendu s'exprimer sur ce point, sur la vente d'expositions clés en main, qui, soyons attentifs à ce point...
C'est un très gros marché mondial, ça. Hein.
Oui, mais nous font quand même, encore une fois, sortir de ce paradigme des musées que respectent, à ma connaissance, beaucoup de musées dans le monde, y compris certains de nos homologues américains, qu'il s'agisse, par exemple, du Metropolitan Museum of Art de New York. Donc, et si nous changeons de paradigme, il faut le savoir, alors il y aura des conséquences, c'est-à-dire que les pouvoirs publics diront au musée, ben, puisque vous avez démontré qu'il y avait une valeur financière assignée aux prêts, location d'œuvres, d'expositions, alors vous allez accentuer ces démarches-là, et à ce moment-là, nous aurons en partie changé d'univers.
Merci Jean-Michel Tobelem, merci à vous François Chaubet d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous, tout de suite, la soirée football sur RFI.